Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Vendredi 1er février, la Fondation Abbé Pierre a remis son rapport annuel contre le mal-logement, dans lequel elle constate qu'en 10 ans, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% en France. Près de 4 millions de personnes sont en effet mal logées, soit sans logement personnel, soit vivant dans des conditions de logement très difficiles. Les expulsions locatives sont également visées. Elles ont, d'après la même étude, atteint un record en 2016 avec 15 222 expulsions, soit une hausse de 41% par rapport à 2016. Elles ont toujours lieu avec le concours de la force publique sans solution de relogement. Parmi les points positifs, par contre, la Fondation Abbé Pierre indique que le confort sanitaire s'améliore puisque 99% des logements disposent maintenant d'eau courante avec des WC intérieurs. Dans leur tentative de trouver un refuge, les soirs et les nuits les plus rudes, les sans-domicile fixe doivent aussi se confronter de plus en plus directement à l'imagination cynique des créateurs de mobilier urbain et des syndics de copropriété. Dans le métro, ce sont des bancs penchés et compartimentés pour les empêcher de s'allonger. Ailleurs, des grillages pointus, des poteaux, des bornes, des plots destinés à empêcher les sans-domicile de se reposer, voire de dormir. Un journal en ligne, Street Press, il y a quelques années, a mené une petite enquête auprès des usagers et des designers et dressé un inventaire déprimant de ce genre d'invention. Ainsi sont apparus récemment les bacs remplis de galets dans les halls d'immeubles. Mieux, on voit aussi apparaître des installations de cactus, donnant un aspect un peu écolo à la lutte anti-SDF, aussi nommée excroissance urbaine anti-SDF. Les grands classiques restent les pics. À leur sujet, ABC Équipement, qui est un fabricant de mobilier urbain, déclare dans l'article dont je vous parle, je cite, « Ce type de mobilier se trouve dans l'espace public, il est donc soumis à une réglementation stricte. Par exemple, les pics doivent être inconfortables, mais ne doivent pas blesser. » Nous voilà rassurés. Heureusement, si on peut dire, certaines grandes gares restent encore accessibles aux sans-abri, comme la gare de l'Est ou la gare Saint-Charles à Marseille, où ils sont nombreux à dormir. Des cheminots parisiens ont même décidé de leur venir en aide, ils ont organisé des maraudes et ils distribuent des repas. Aujourd'hui donc dans les pieds sur terre, sans-abri, vivre dans une gare, ils ont donc vécu là. Et ce sont deux histoires racontées par Alice Milot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
On est en juin 2006 et je viens d'avoir mon bac à Libreville au Gabon, donc un bac L, et je fais une demande à l'Université de Nice pour étudier la communication en France. Donc 3 semaines plus tard, je reçois une réponse via l'ambassade de France et qui me dit que c'est accepté, que dès le mois de septembre, je peux m'inscrire pour la rentrée. Donc je fais les démarches, mes parents sont donc à fond derrière moi et m'encouragent à partir donc pour chercher mon avenir. Je savais que je partais pour une licence, donc au moins 3 ans. Là, je dis au revoir à ma famille, je me rends compte que je pars vraiment. Et là, c'est plein d'émotions qui m'envahissent. Je me dis, bon, faut pas avoir peur de ce que je peux trouver. Ma mère et mon père me disent, ne t'inquiète pas pour nous, va mon fils et puis fais ce que tu as à faire. Voilà. Et je suis parti. On est donc le 6 octobre. Voilà, je pars comme ça, tout excité, dans ma fougue, dans ma jeunesse, dans mon insouciance. J'avais mes 2 valises, mon sac à dos et une sacoche que ma mère m'a remise avec environ 900 euros que j'avais toujours sur moi dans la doublure de ma veste. Voilà, j'arrive à l'aéroport de Marseille à 13h. Le temps de faire les formalités. Et de sortir de l'aéroport, je me suis dit, me voilà en France. Et là, premier choc, c'est l'autoroute, de voir autant de voitures Je n'avais pas vu une route aussi parfaite depuis que j'étais né. Donc j'imaginais, mais je ne savais pas quel effet ça me ferait. Donc le voir l'autoroute, de voir aussi une population différente, parce que j'ai toujours été en plein cœur de Libreville ou de Port-Gentil, toujours entouré de noirs. Et là j'arrive, je vois plein de blancs. Ça aussi c'est un choc, c'est un truc. Voilà, je suis impressionné. Donc je sors de l'aéroport, je vois un groupe de jeunes vers qui je vais pour demander comment faire pour me rendre à la gare de Marseille-Saint-Charles. J'avais recherché déjà avant d'arriver, vaguement sur Internet. Donc je savais qu'il y avait une navette qui emmenait à la gare. Et de la gare, je savais que j'allais prendre un train pour Nice. Et donc je vais vers eux, ce sont des jeunes comme moi. Ils voient que je ne suis pas d'ici. Et ils me disent, ah, mais si tu veux aller à Marseille, c'est par là. Viens, suis-nous. Et moi, je les suis donc dans l'optique de rejoindre cette navette. On traverse un parking, un premier parking. Ensuite, on traverse un deuxième parking. Je les suis, je trouve que c'est un peu long. Et là, ils me sortent un couteau. Ils me le pointent là sur mon cou, comme ça, en me disant, fais pas le con, donne tout ce que t'as. Au début, je me suis dit que c'est une blague et que c'est pas un vrai couteau. Ça, c'est pas vrai ce qui est en train de se passer, ça ne peut pas être en train de m'arriver. Il y en a un qui continue à me tenir, et les deux autres fouillent mes affaires, mais vraiment très rapidement, ils ont déchiré le sac comme ça, au couteau. Pareil pour mes valises, ils ont tout de suite passé le couteau pour déchirer la valise. Et donc ils voient dedans des babioles que j'ai achetées au duty free, là, en partant, un parfum. Voilà quelques souvenirs que ma mère m'a donnés, des cahiers, un album photo, des masques gabonais, plus des papiers pour l'université de Nice qui m'attendait. Puis des gens arrivent, donc ils voient qu'on va être interrompu et ils prennent toutes mes affaires et ils s'en vont. Et moi je me retrouve là tout seul au milieu du parking, encore sous le choc de ce qui vient de se passer, et je me dis bienvenue en France. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur de tout le monde parce que j'ai même peur de demander un renseignement parce que je me dis les gens en face de moi peuvent très bien encore me vouloir du mal. En fait, je me sens en insécurité, mais en insécurité mentale. Tout me paraissait complètement devenu irrationnel. Donc, premier effet, je me dis, qu'est-ce que je fais? Tu peux peut-être partir dans la ville et là, tu trouveras une solution. Dans la sacoche, il y a l'argent, 900 euros que ma mère m'a donné. Donc cette pochette, ils ne l'ont pas vue parce qu'ils ne m'ont pas touché, ils n'ont pas eu le temps de me fouiller. Et donc je pars avec cette pochette et donc le passeport, le visa. Donc ce qui prouve que je suis arrivé dans des conditions légales et que je peux donc me rendre dans un commissariat ou à la préfecture ou quelque chose comme ça. Sauf qu'à l'époque, je ne sais pas encore ce que c'est que le commissariat. Pour nous qui avons vécu à Libreville, la police, c'est souvent l'extorsion, de l'arnaque et surtout de l'emprisonnement arbitraire. Et donc pour moi, ça représente tout ça, la police. Donc j'ai peur d'y aller. Donc finalement, j'arrive à trouver un bus pour m'emmener à la gare Saint-Charles. Donc j'arrive à la gare Saint-Charles, premier réflexe. J'appelle ma mère, je lui dis que je suis bien arrivé. Que tout se passe très bien, donc je ne lui dis pas ce qui vient de m'arriver, parce que encore sous le choc. Puis, je me dis, je vais rester dans la gare. Et là, j'arrive, je vois des dizaines de TGV alignés comme ça sur les quais. Ça me fait un choc, je vois, ça marche avec l'électricité. Je me dis, waouh, tout ça me paraît tellement futuriste, étrange, enfin. Même le son, la petite musique de la SNCF, la petite dame qui fait et ça, ça restera pour moi un point de repère pendant des années. À un moment donné, je l'avais comme sonnerie dans mon téléphone. Donc l'après-midi passe comme ça, il commence à faire froid, il devait être 17h, j'ai qu'une veste sur moi, il y a un McDo à côté de la gare. Et je vais là-bas. Première fois dans un McDo. Je mange, je trouve de la chaleur. Et du coup, je reste un peu. Je reprends un truc à manger, histoire de gagner du temps. Mais à 1h30, eh ben, il ferme. Donc, je retourne dans la gare. Et je vois quelques sans-abri qui sont déjà habitués des lieux. Et je les suis. Ils me montrent gentiment où je peux me mettre à côté d'eux. Il y a des cartons, et je me mets là. Et j'attends, je me dis demain est un autre jour et on trouvera une solution. Je passe ma première nuit dehors. Et donc je pensais passer une nuit et en fait j'ai passé 2 mois. Je suis resté 2 mois dans ces conditions. Je n'osais plus appeler ma mère parce que j'en avais marre de lui mentir, lui dire bon, écoute, ça va, j'ai commencé les cours alors que pas du tout. Parce qu'il y a aussi une certaine gêne, une certaine honte. Il y a beaucoup aussi de fierté, je pense, derrière qui fait que je me dis bon, allez. Tu dois te battre, tes parents ont sacrifié plein de choses pour que tu puisses venir. Sois un homme et tu peux te débrouiller tout seul. Donc, premièrement, je me trouve une routine. Lever à 4h, 5h du matin tous les jours. Puis, je me mets à être comme un chef de gare, c'est-à-dire, je connais exactement les horaires de tous les trains qui partent et je me mets à dire « Ah !» Celui-là, il est en retard. Il aurait dû partir depuis 3 minutes 30. Et j'occupe mes journées comme ça. Je passe beaucoup de temps dans un cybercafé à côté, où je suis sur Internet à chercher des logements. Le soir, je retrouve les cartons avec les amis. On se souhaite bonne nuit. On s'endort comme ça dans cet esprit un petit peu léger. Puis, je discute tous les matins, à 5h du matin, avec les messieurs qui nettoient la rue. Donc ce sont des Comoriens qui me disent « Va à tel endroit, tu pourras trouver de quoi te laver, te rafraîchir. Il y a une association qui peut t'aider. » Et donc ce sont mes compagnons. Tous les matins, c'est notre petit rendez-vous à 5h. On se retrouve devant la gare, on discute un petit peu. Donc on devient amis. Il y en a même qui parfois le matin me ramènent des restes de ce qu'ils ont mangé la veille, que leur femme a préparé. Et je me rends compte qu'il existe encore des gens bien. Donc je reprends confiance petit à petit en l'autre. Et je me dis, bon, allez, c'est arrivé. Maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas pas te laisser abattre, il faut y aller. T'es venu pour faire des études, tout ça. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris la décision de quitter la gare pour aller à Nice et enfin faire mes études. Donc, à Nice, le mois d'après, je m'inscris à la fac. À la fac, on me dit « Waouh, vous avez 2 mois de retard, les cours ont commencé, vous êtes arrivé à la limite, on allait fermer les inscriptions. » Ensuite, je m'inscris dans les cours, j'arrive dans une salle de classe, tout le monde vient d'avoir le bac, donc ils sont tous comme « Ah, il y a un nouveau !» Et tout le monde vient me parler, ça me fait du bien de retrouver un petit peu des jeunes et surtout des sourires, de voir des gens insouciants, des sourires. J'ai trouvé un travail. Je travaille à McDo à Nice et pile 2 mois après, je trouve un logement le 1er décembre. Et ça a été pour moi une grande délivrance. Puis, je suis reparti dans la gare de Marseille. J'ai retrouvé ma cafétéria, où j'allais donc me rafraîchir. Et j'y ai passé quelques instants. Je me suis assis, j'ai regardé la gare, et là, tout était plus différent. je n'étais plus un habitant de la gare. J'étais un voyageur comme un autre. Donc ça m'a fait tout drôle. Je me suis construit depuis, donc j'y repense très peu, mais je garde quand même de cette expérience, ça fait bizarre de le dire, une certaine force, une certaine confiance en la vie, parce que il peut arriver des choses et on peut s'en sortir. S'il y a un problème, il y aura une solution. Et j'ai gardé ça, de cette expérience.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors voilà, rentrée. Ça, allez. C'est chez nous. Voilà, petit chien.
Allez, dépêche-toi.
Ici, vous êtes dans une chambre pour couple. Donc la superficie, on va dire qu'elle fait 15-16 mètres carrés. Un petit chien accepté, donc vous voyez, assez d'espace. De quoi quand même vivre agréablement. Nous avons été expulsés, donc nous avons pu récupérer quelques meubles, et ici, ils acceptent qu'on amène nos meubles. Hein. En bas, vous verrez, il y a une cuisine aménagée pour qu'on puisse se faire la cuisine. Et quand on revient avec nos plats, on fait la vaisselle ici. Le lavabo sert un petit peu pour la toilette, et puis pour faire un petit peu de... laver la vaisselle du petit-déj, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que veut dire le titi, maintenant qu'il y a des croquettes? Qu'est-ce que tu lui donnes, Amélie?
Des croquettes.
Ouais, moi, je voulais lui filer un petit peu de bourguignon, il va pas aimer.
Ah non.
Il y a du pinard dedans.
N'importe quoi.
Vous faisiez quoi comme travail?
J'étais vendeuse, en prêt-à-porter. Et c'est en levant un rideau métallique que je me suis esquinté le dos, quoi. J'étais opéré la colonne vertébrale, je ne pouvais plus travailler ni soulever de poids, j'étais interdit, enfin, dispensé de travail. Puis j'ai toujours des difficultés de toute manière, qui jouaient jusqu'à la fin de mes jours.
Moi j'ai travaillé autrefois dans la librairie, j'ai fait ambulancier, j'ai fait représentant, j'ai fait plein de choses, jusqu'au jour où j'ai connu madame, donc dans le sud-ouest. On s'est connus, ça a été un coup de foudre, elle était mariée, moi j'étais célibataire. Mais déjà, ma famille à moi, j'étais divorcé, me considérait pas trop bien. Et du fait que j'ai, disons, carrément enlevé madame à sa famille l'a très mal jugée. Disons que sa famille a cru qu'elle l'avait abandonnée, et puis etc. Donc on a décidé de partir de l'Île-de-France, étant donné que j'avais plus de travail. Donc on est arrivé en Île-de-France, assujetti au RSA, ou RMI à l'époque. Mais on a trouvé des petits boulots, mais ça n'a pas été suffisant. Il n'y a pas eu de CDI, il n'y a pas eu de concrétisation. Parce que vous travaillez 2 ans, même si vous bossez bien, ben on vous dit finalement que vous avez utilisé pendant 2 ans un petit peu comme un Kleenex pour éponger les trous qu'on a, et puis on vous remet dans le système, et voilà. Donc il y a un découragement assez rapide pour essayer de râler contacter le Pôle emploi. Ouais. Chaque fois que j'allais au Pôle emploi, c'était en reculant. Hein. Jusqu'au moment où on m'a dit, monsieur, mais vous êtes trop vieux maintenant. Quand j'y suis allé, que j'avais 52, 53 ans. Vous voulez faire quoi?
On avait un appartement dans le 19e arrondissement qui appartenait aux petits frères des pauvres. Et puis, on a eu quelques petits soucis avec eux. Et puis, bon, mais on s'est retrouvés à la rue au mois d'avril, en 2012.
Voilà. Donc on s'est retrouvé à la rue avec le petit chien, etc. Et 2012, on s'est retrouvé Gare de l'Est.
Alors, on avait récupéré un chariot de... vous savez, à la gare, il y a des grands chariots, vous savez. Alors, on avait mis toutes nos valises dessus. Et puis, tous les matins, on chargeait les valises. Le soir, on les posait par terre. Moi, je dormais sur 2 valises. Lui dormait par terre avec des cartons, puis les duvets, quoi.
À Gare de l'Est.
Gare de l'Est, sous un abri, un ancien abri de bus qui n'existait plus, quoi. Mais il était toujours là et nous, on s'était mis là.
Un abri bus, hein, on est dehors, il y a des gens qui tapent la nuit pour vous réveiller exprès. Vous êtes à la merci, on peut vous attraper, vous avez le regard des gens, vous êtes par terre, mais il y en a qui vous regardent de haut en disant « Pauvre France, ce ramassis de gens ». Il y en a d'autres qui vous regardent et... Ça leur fait peur, parce qu'ils savent que peut-être un jour, ils peuvent se retrouver à votre place.
Il y en a qui sont très gentils avec nous.
Il y a des gens très très sympas.
Très ouais. Très sympas, qui nous aidaient.
On devait avoir des bonnes têtes, ou je sais pas, souvent des gens passaient, et on leur demandait rien, nous laissaient un petit billet, Un soir, Gare de l'Est, un monsieur qui nous agite un billet par à travers la grille. J'avais un copain qui était plus ou moins alcoolisé, qui dit, mais qu'est-ce qu'il veut ? J'ai dit, je donne un billet, oh, 5 euros, je me dérange pas.
50 euros.
Je regarde, c'est 50 euros. C'était un gars de passage, un Américain, qui avait habité à l'hôtel en face, qui nous a vu comme ça. Il nous a filé 50 euros comme ça pour nous dépanner. Il y a quand même des
gens bien, hein.
Il y a des belles personnes. Hein.
Oui.
Comme on était relativement correct à la gare de l'Est, ce qu'ils ne veulent pas quand vous êtes dans la gare, c'est la mendicité qui en est partout, etc.
Faire la manche, je ne pouvais pas. On n'a jamais pu le faire.
Nous, on était propres, on avait le chien, on restait, et on posait notre chariot dans un coin, de façon à ce qu'on ne voit pas qu'il y avait, qu'on était SDF. Et donc, on s'est lié d'amitié avec la brigade ferroviaire, qui est une brigade de police. Le matin, la gare de l'Est, il klaxonnait, il nous apportait les croissants. On n'a pas fait que pleurer. On avait quand même des gentils moments. Quand même, la police qui vous amène des croissants, c'est extraordinaire, quoi. Alors que vous êtes SDF.
Même bien souvent, il y a des gens qui venaient nous donner des croquettes ou un billet pour acheter des croquettes pour le chien.
Alors voilà, Folk, c'est lui.
Il couchait dans mon duvet tous les soirs, avec moi.
Toute la rue l'a fait avec nous, mais il ne nous a jamais quittés. Jamais, jamais.
C'était notre petite mascotte.
Nous, on s'est toujours occupé en priorité du chien. Il nous arrivait des moments où on n'avait rien à bouffer. Le chien, comment on fait ? On se débrouillait toujours pour avoir 3 francs 6 sous, qu'il ait des croquettes, etc. Le chien d'abord, parce qu'on s'est dit, le chien, il est pour rien. Puis voilà, c'est très important.
Mon bébé. Oui, il est le bébé à maman.
Quand vous êtes dans la rue, il y a quelque chose de très dangereux. Alors vous touchez le RSA en début de mois, vous avez été tellement privé pendant le mois. Le jour où vous avez l'argent dans les doigts, c'est rien du tout, vous dites, mais tout d'un coup, au début de mois, je suis presque riche. On était tellement mal dans la rue, enfin mal, etc. On se disait, ouf, on va se payer 3 ou 4 jours à l'hôtel. Vous payez une chambre d'hôtel à 2, etc., c'est de suite 90 euros, vous mangez un peu, et ça y est, vous avez bouffé la moitié du truc. Mais on se faisait un plaisir en disant, ça y est, pendant 3 jours, on est au chaud pendant 3-4 jours.
Et puis après, quand il fallait retourner à la rue, puis on voyait qu'il pleuvait des cordes, c'était la catastrophe. C'est pas évident. Et puis, au moment des élections, bon, on s'est fait virer de cet abri. Et de là, on est parti au canal Saint-Martin. Et là aussi, c'est pareil. Bon, la nuit, quand il pleuvait, il fallait se trouver un abri. C'était pas toujours évident. Et puis, on a eu quelques petits soucis avec d'autres. Moi, j'ai été agressée 2 fois.
Évidemment qu'une femme, ça provoque dans la rue des désirs, des choses comme ça. Je me sentais pas tellement fier, bien que je sois assez solide.
Donc après, on est parti au Bois de Vincennes. Parce que là-bas, on avait des gens qu'on avait connus, qui nous voyaient tous les jours, avec qui on avait sympathisé, nous avaient donné 2 tentes. Et du coup, on est parti au Bois de Vincennes planter les tentes, parce qu'autrement, au bord du canal, on ne pouvait pas. C'était interdit.
Moi, je me sentais plus rassuré. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Oui, moi aussi, mais on n'était pas que tous les deux. Il y avait 2 autres personnes avec nous, qu'on avait connues aussi, qui étaient dans la rue. On avait sympathisé, donc on était ensemble.
J'étais plus rassurant. On avait quelqu'un en face de nous qui veillait sur notre campement, par exemple, où on veillait sur le chien quand il partait, pendant qu'on allait faire les courses. On avait le temps d'aller se doucher dans les bains de douche, etc., en laissant Annie toute seule avec quelqu'un qui avait le portable, qui pouvait téléphoner. Voilà. Donc nous, on avait eu cette stratégie d'être en groupe pour pouvoir s'entraider, au fait. Puis il y a un phénomène d'entraide. Hein. Et il y a aussi un phénomène pécuniaire. Parce que comme on était assujetti au RSA, quand on est 4... Donc, on était en couple, ça fait 3 RSA. Ou... Ça fait quand même de l'argent en plus, donc on peut mieux gérer une collectivité que se gérer tout seul. On arrivait quand même à se faire des bons petits repas, plutôt qu'en étant tout seul avec mon épouse. Donc, en faisant argent commun, on arrive à s'en sortir.
On avait un Emmaüs pas loin, on pouvait y aller à pied, à Vincennes. On pouvait faire des machines, on pouvait laver son linge, quoi.
Et donc, on se débrouillait comme ça, linge et douche, on faisait ça 2 fois par semaine, plus tous les jours, des petites courses qu'on faisait nous-mêmes, et complément au Restos du Cœur. Voilà. Alors ça, nous, les Restos du Cœur, qu'est-ce qu'on a pu y aller ? Mais les Restos du Cœur, les camions, etc., c'est vrai, c'était devenu indispensable, hein, ouais. Parce qu'on peut manger chaud. Et donc, c'est tous les jours de la semaine, mais à des endroits différents de Paris. Quand vous avez faim, vous inquiétez pas, vous prenez le métro, même ce qu'on appelle à la ramasse, c'est-à-dire sans mettre le ticket, vous allez toujours aller chercher les repas, hein, y a aucun souci. Donc nous, on se débrouillait comme ça. Et on se débrouillait aussi, nous, avec un petit réchaud qu'on avait acheté. On faisait chauffer les boîtes de conserve qu'on achetait. Et moi, je pense que c'est les conditions climatiques qui ont fait que c'était très dur au bois, parce que lorsqu'il pleut, il fait très humide aussi. Vous dormez la nuit dans des duvets qui sont mouillés. Et on est tombé sur des gens qui font partie de les maraudes de la ville de Paris, qui ont vu, parce que ma femme était quand même relativement malade, et donc ils nous ont trouvé un hébergement ici. Je pense qu'on a eu un hébergement prioritaire parce que t'étais pas bien, sinon on n'aurait jamais connu la structure. On est en transition ici. Cette chambre, elle ne nous appartient pas, elle appartient à la structure. Ce n'est qu'un passage, hein. Mais quelque part, c'est chez nous. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent, je suis content. J'ouvre la porte, je la ferme, je dis « Oh, c'est notre chambre, je suis content. » Voilà.
Donc vous êtes ici jusqu'à ce qu'on vous trouve un appartement, c'est ça?
Ouais, mais là, ça devrait se faire d'ici le mois de mai. En principe, on devrait avoir l'appartement.
Vous n'aviez pas de famille pour vous aider après votre expulsion?
Non. Et ils sont sur Bordeaux, et puis on est brouillé avec la famille, alors c'est pas la peine. On ne peut compter que sur nous deux.
Et surtout, nous n'avons pas voulu dire à nos enfants qu'on était un petit peu dans le creux, quoi.
Moi, j'en ai trois de mon côté, et lui, il a un fils de son côté. Je veux pas que mes enfants sachent ce qu'on a vécu ici, dans la rue. C'est notre problème, c'est pas le leur. Et demander de l'aide, non. Et puis, la famille, ils ont leur vie, moi... Ce que je vis, ça les regarde pas, c'est personnel. Puis de savoir qu'on a vécu dehors, comment ils en, ce qu'ils en penseraient, tout ça, moi je veux pas. On a notre fierté nous-mêmes. Hein.
Mais contrairement à mon épouse, moi ça me dérange pas. Parce qu'on a passé quand même 15 ans, c'est difficile. Bon, on s'en est sorti, donc ça prouve qu'il y a quand même une certaine valeur. Et si un jour il me dit « Ah, je t'ai entendu à tel endroit, mais t'étais en galère, fallait le dire. » Là, on pourra peut-être repartir sur d'autres bases. Voilà.
C'est... Donc, aujourd'hui, vos sources de revenus, ce sont vos retraites ?
La retraite.
Pour nous, ça sera ce qu'on appelle le minimum vieillesse à deux, ce qui représente 1 259 € par mois, hein, à deux. Hein. On n'aura pas plus.
C'est payer son loyer, payer ses factures, et puis après faire avec ce qu'on a, et puis faire attention, puis c'est tout. Vivre une petite vie tranquille. Hein. C'est tout, oui.
Vivre dans une gare, c'était un reportage d'Alice Milo réalisé par Emmanuel Geoffroy. Il était diffusé pour la première fois le 3 mai 2017. Cette rediffusion a été prise en charge par François Connac. Jeanne Delecroix, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre. Et notre stagiaire, c'est Nino Lima.